Et place au rendez-vous du médiateur de Radio France. Bonjour Bruno Donnas.
Bonjour Rémi Inc, bonjour à tous.
Un sujet agite beaucoup les rédactions depuis quelques semaines, mais aussi les auditeurs. Ce sont les pressions que le nouveau gouvernement semble vouloir effectuer sur les journalistes. Il y a d'abord eu le choix par l'Élysée des reporters habilités à suivre Emmanuel Macron au Mali, la plainte à la suite d'informations publiées par Libération, et puis enfin le coup de fil de François Bayrou au directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France. Pour en parler, vous recevez aujourd'hui Patrick Evenot, le président de l'Observatoire de déontologie de l'information et historien des médias.
Patrick Evenot, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment interpréter ce coup de fil du garde des Sceaux à un journaliste, Jacques Monin, chef du service des enquêtes de Radio France, coup de fil avec menace de poursuite judiciaire?
C'est des pratiques d'un autre âge. Hein. Je crois qu'il faudrait que François Bayrou se remette au goût du jour. Je pense que ce que vous avez énuméré, ce n'est pas exactement la même chose. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faudrait peut-être des spécialistes de l'Afrique pour m'accompagner au Mali plutôt que des spécialistes politiques, il essaye de faire bouger un peu les pratiques rédactionnelles. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas lui qui choisit les journalistes. Mais là, François Bayrou, c'est véritablement une pression sur le service d'enquête avec menace de poursuite, avec finalement l'idée d'une censure préventive ou a posteriori. Et ça, c'est vraiment des pratiques d'un autre âge. On se croirait revenu à l'ORTF des années 60.
Alors, on en reparlera justement. Mais est-ce qu'on peut dire que la liberté de la presse est en danger?
Elle n'est pas vraiment en danger parce que maintenant, c'est un peu différent parce qu'on n'est plus dans les années 60. On a d'abord la multiplication des chaînes de radio, de télévision, etc. Ce qui fait que quand on ne peut pas dire quelque chose à un endroit, on peut le dire ailleurs. Et puis, entre collègues, entre confrères, on discute, etc.
Et puis, on le fait savoir.
C'est ça la grande différence, c'est qu'on le fait savoir, soit par des confrères, soit sur Twitter, sur Facebook, sur autre chose. Et donc, toutes ces tentatives de pression, on les voit se multiplier parce que finalement, on en sait beaucoup plus, alors qu'avant, c'était dans le secret des cabinets feutrés avec des petits coups de téléphone.
Ça existait, mais on ne le savait pas. Alors, en tant que médiateur, je suis régulièrement confronté à des messages d'auditeurs qui continuent de penser que nous, journalistes, qui plus est du service public, sommes soumis à des pressions permanentes du pouvoir. Or, aujourd'hui, en effet, n'est-il pas risqué pour un homme politique de tenter de faire pression sur un journaliste?
C'est très risqué parce que ça se sait tout de suite. On voit bien, là, ces affaires-là, tout de suite, ça se sait. Ça ternit l'image de l'homme politique, ça ternit son action, parce qu'on voit bien que Bayrou, qui veut moraliser la vie publique, en même temps, s'il fait pression sur les journalistes, c'est pas de la moralisation, ça. Donc, ça pose un véritable problème pour sa propre action. Et donc, je crois qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent. Alors, bien sûr, il y aura toujours des tentatives d'explication plus ou moins musclées, d'incitation, etc. Le journalisme, c'est comme la politique, ce n'est pas une science exacte et il y aura toujours des gens qui essaieront d'influer dans un sens ou dans l'autre.
Mais le principal, c'est de ne pas y répondre.
Le principal, c'est que la rédaction n'y réponde pas et qu'elle fasse savoir quand il y a justement une menace.
Alors, en fait, et d'ailleurs, vous l'évoquiez, certains auditeurs continuent de penser et de raisonner comme si nous étions dans les années 60-70. À cette époque, il est sûr que notre directeur des enquêtes et de l'investigation aurait été viré peut-être immédiatement.
Sans doute.
Ou plutôt, il n'y aurait même pas eu d'enquête d'ailleurs.
Il n'y aurait sans doute pas eu d'enquête. Y avait-il même un directeur des enquêtes et de l'investigation à l'ORTF?
C'est vrai que ça n'existait pas.
Ça n'est pas certain. Il était évident qu'à l'époque, la radio et la télévision étaient nationalisées, appartenaient à l'État. Et en France, quand ça appartient à l'État, ça appartient au gouvernement. Ça appartenait au général de Gaulle, à son ministre de l'Information. Il y avait un ministre de l'Information, Alain Peyrefitte,
qui donnait des coups de fil souvent.
Qui écoutait les journaux avec le téléphone à la main, et quand il appelait le PDG, il disait « mais virez-moi ce con !» C'était son expression. Donc vraiment, oui, excusez-moi pour les auditeurs. Donc, et qui venait lui-même présenter, quand il y avait un changement dans une chaîne ou dans une radio, il venait présenter à la radio ou à la télé la nouvelle maquette du journal, etc. Et tous les mercredis, après le Conseil des ministres, il s'invitait à la radio et à la télé pour donner le compte-rendu au Conseil des ministres. Ça durait plus d'une demi-heure. La bonne parole, ça a quand même beaucoup évolué depuis les années 70 avec la dissolution de l'ORTF et puis les années 80-90 avec l'apparition de nouvelles chaînes, de nouvelles radios, des privatisations, etc. Et donc la concurrence qui est saine dans ce cas-là, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire pression sur 25 radios et 50 télés.
Et des auditeurs nous ont reproché nos enquêtes sur François Fillon, les révélations sur Richard Ferrand, les mises en cause du MoDem ou du Front National. Mais tout cela ne devrait-il pas plutôt rassurer les auditeurs? N'est-ce pas une preuve de l'indépendance de la presse et du bon fonctionnement de la démocratie?
Mais oui, alors ça, c'est la contradiction permanente. les Français, dans leur immense majorité, demandent plus de transparence. Et ce, depuis 20 ou 30 ans, on ne cesse de demander de la transparence dans les finances publiques, dans les affaires, etc. Quand ça touche quelqu'un pour lequel on a une sympathie, pour lequel on milite, ou etc., évidemment, on dit « mais pourquoi lui et pas les autres ?» etc. C'est à chaque fois la même question entre l'opinion publique, qui est un tout, des Français qui veulent de la transparence et qui veulent qu'on en finisse avec cette république bananière qui a trop perduré, et puis l'individu qui a des sympathies pour un tel ou un tel et qui évidemment à ce moment-là accuse les médias d'être partisans comme lui-même l'est.
Justement, en tant que médiateur, je le vois d'ailleurs assez souvent, on est d'accord pour la transparence pour les autres, mais pas pour le candidat qu'on soutient.
Voilà, c'est l'éternel problème, mais je crois que c'est plutôt là, c'est vraiment la schizophrénie personnelle. Enfin, on est tous pour la transparence, personne ne va vous dire, il faut faire le silence. Et puis, mais quand ça touche mon candidat que j'aime bien, là, ça m'embête beaucoup.
Merci Patrick Evenot, président de l'Observatoire de déontologie de l'information et historien des médias.
Merci Bruno Donas, médiateur des antennes. On vous retrouve samedi prochain. En attendant, les auditeurs peuvent vous écrire sur votre site mediateur.radiofrance.fr et vous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.